Le grand témoin. Bonjour à tous et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin qui reçoit aujourd'hui Floribert Chebeaba Isiré. Il est président de l'ONG des droits de l'homme, La Voix des Sans Voix. Nous l'accueillons en le remerciant d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Alain.
Qu'est-ce que La Voix des Sans Voix? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement et pour quel intérêt? Voilà des questions que nous aborderons dans la seconde partie de cet entretien. Pour l'instant, intéressons-nous à l'homme qui dirige cette organisation. Floribert Chebeaba, vous êtes né à Bukavu, au sud Kivu. Vous avez quand même des souvenirs d'enfance?
Oui, de nombreux souvenirs d'enfance.
Tels que?
Ma famille, l'environnement, les pluies de Bukavu, la boue, la distance entre la commune de Kadutu et Banda pour aller à l'école. Donc, les petites filles, l'adolescence, les difficultés de la vie également.
Parlez-nous des petites filles de l'adolescence.
C'est comme tout adolescent qui découvre le monde, qui veut se réaliser à travers, n'est-ce pas cela. Mais Dieu nous a gardés parce que ça peut conduire également à l'égarement et sacrifier l'avenir.
Et vous êtes né dans une famille de combien d'enfants?
Nous sommes 8 enfants, donc 4 filles, 4 garçons. J'ai clôturé la série. Je suis donc le cadet de la famille. Je suis né en 1963.
Le plus soigné de tous, donc.
Peut-être c'est ce que j'apprends, mais c'est pas si c'est vrai. Mais peut-être il y a une bonne part de vérité. Oui. J'ai fini à l'hôpital général de Bukavu en 1963, le 13 septembre 1963.
Et quels souvenirs vous gardez de Bukavu, puisque vous êtes à Kinshasa, vous résidez à Kinshasa, n'est-ce pas?
Oui, la fraîcheur, l'environnement. Voilà.
Et vos études, parlez-nous aussi de vos études.
J'ai commencé à fréquenter l'école primaire en 1969, à l'école primaire officielle de Kadutu. Après ça, j'ai fait les études secondaires à l'Institut Bahati, qui est juste à côté de l'église catholique Saint-François de Bukavu. Là, je suis allé continuer les études humanitaires à l'Athénée d'Ibanda, donc l'Institut d'Ibanda, où nous avons fait quelques années avant de poursuivre les mêmes études à Kinshasa. Là, nous sommes vers les années 81, où nous avons décroché notre diplôme d'État avant de continuer les études supérieures universitaires.
Et vous arrivez à Kinshasa, pourquoi?
Là, je venais de rater mon examen d'État, donc en 1981. Il faut dire que la qualité de l'enseignement s'est détériorée déjà à l'Athénée d'Ibanda. J'ai fait les années antérieures, j'étais parmi les brillants, mais j'ai fait le maximum, j'ai pas eu mon diplôme, donc ma famille a estimé qu'il était bon de venir à Kinshasa pour finalement avoir ce diplôme, où j'ai me suis fait inscrire à l'Institut Kassai, mais en autodidacte, où j'ai effectivement eu mon diplôme.
Avec quel pourcentage?
Pas beaucoup, 54%, mais on ne sait pas si c'est le pourcentage réel que nous avons reçu, parce que ça a commencé déjà à bouger au niveau de l'enseignement. Il y a des collègues qui ont dit, mais j'ai pas de preuves, qu'on aurait soustrait 10% ou en tout cas 10%. Probablement, j'aurais fait 64%, mais en tout cas, sur le papier, c'est 54%.
Et après vos études à l'Institut supérieur de commerce de la Gombe, ISC en 1989, vous faites quoi?
Tout de suite, j'ai pas chômé. Je me suis fait, après un test organisé par l'Association nationale des entrepreneurs du Zaïre, ANESA, je me suis fait engager comme agent chargé des finances à une société privée à responsabilité limitée, et groupe ABI, où je m'occupais en fait de questions financières liées à l'entreprise. Mais c'était une expérience qui a duré juste une année.
Le grand témoin. Grand témoin vous fait découvrir Floribert Chebeaba, président de l'ONG des droits de l'homme, La Voix des Sans Voix. Expliquez-nous comment vous passez des finances de l'ISC aux droits de l'homme.
C'est une question essentiellement de vocation. Déjà, quand nous étions à l'école secondaire, surtout à l'école supérieure, grâce à la lecture, à l'ouverture au monde, également l'encadrement spirituel, on était porté essentiellement vers le bien. Et la préoccupation, c'était quoi faire pour aider le semblable. Nous nous sommes engagés vite dans les mouvements mondiaux de la Croix-Rouge, où nous avons cheminé, nous avons découvert la Croix-Rouge du Zaïre à l'époque, où nous avons exercé quelques responsabilités au niveau, après une formation d'animateur conférencier au niveau du droit international humanitaire, et nous avons même fait tout fait pour que la Croix-Rouge ait une représentation à l'Institut supérieur de commerce. Donc c'est nous qui avons implanté, initié la Croix-Rouge à l'Institut supérieur de commerce en 1983.
Et en 1992, un prix des droits de l'homme vous est décerné par la multinationale américaine Reebok Human. C'est quoi exactement ?
Oui, justement, ça récompense, ça valorise les efforts que nous avons déployés pour faire rayonner les droits humains. La voie des 100 voix pour les droits, en fait, l'idée remonte vers les années 1983, où un groupe des jeunes étudiants et qui venaient de terminer également fraîchement l'université se sont retrouvés pour commencer à sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les questions des droits humains, et sans moyens financiers, en prenant des risques multiples pour, en fait, dénoncer. C'est en fait le travail que la presse est en train de faire actuellement, parce que vers les années 83, 85, 86, c'était risquant de dénoncer les violations des droits de l'homme.
Mais si je ne me trompe pas, la multinationale Reebok fabrique des chaussures, mais quel rapport y a-t-il entre les chaussures et les droits de l'homme?
Oui, tout à fait, pour dire que Reebok est une multinationale, effectivement, dont les usines sont principalement installées en Asie, et pour réagir aux attaques contre la société, les attaques d'exploitation, a initié un programme des droits humains en 1988 avec Amnesty International et d'autres organisations pour récompenser chaque année de par le monde 4 jeunes âgés de tout au plus 30 ans pour leurs mérites particuliers en ce qui concerne les droits humains. Et en ce qui nous concerne, donc en 1992, nous étions dans la limite d'âge. On a estimé que tout le travail que la Voix des 100 voix pour les droits de l'homme a fait en clandestinité, donc au moment où les droits de l'homme n'étaient pas encore autorisés en République d'Isaïe, donc nous avons pris des risques énormes pendant quelques 7 ans de travail en clandestinité pour sensibiliser l'opinion au niveau du pays à l'étranger. Essentiellement, c'est un travail de rassemblement d'informations, de publication, de vulgarisation et de passage, n'est-ce pas, des documents dans des conditions très, très difficiles.
Avez-vous un autre prix à votre actif?
Oui, ça c'est un prix, disons, pour les mérites personnels, mais l'autre prix que nous avons eu en 1995, toujours des États-Unis, par une organisation qui s'appelle International Human Rights Law Group, qui est devenue Global Rights. En fait, ce sont les efforts de la Voix des 100 voix pour les droits de l'homme pour contribuer à la construction d'une société civile pro-démocratique. Et là, en 1995-16, la Voix des 100 voix pour les droits de l'homme venait d'organiser à Kinshasa le premier forum national des ONG des droits de l'homme de la République du Zaïre à l'époque.
Et comme d'habitude, nous allons mieux connaître Floribert Chebeya. Notre confrère Guy Roger Nyampala a fait un petit tour au siège de la Voix des 100 voix et va nous faire découvrir sa face cachée.
Nous nous trouvons en ce moment dans la salle de réception de l'ONG des droits de l'homme, la Voix des 100 voix, située sur l'avenue des Écuries numéro 38-58, dans la commune de Kitambo. Une quinzaine de chaises et quelques tables, et une télévision et plusieurs affiches collées au mur. 5 personnes sont en mouvement dans ce bureau. Juste en face de moi, il y a un monsieur qui va bien vouloir se présenter.
Moi, je m'appelle Jules Lupancha. Je suis l'intendant et la secrétaire à Voix des 100 voix. Notre statut, c'est recevoir des visiteurs, puis les orienter à qui des voix pour les recevoir.
Et vous ouvrez vos portes ici à quelle heure?
Normalement, c'est à 8h30.
Quotidiennement, vous traitez quel type de dossiers?
Bon, ici, chez nous, nous traitons presque tous les dossiers. Il y a des gens qui viennent des assistances, des consultes parcellaires, des gens qui sont attaqués par des militaires. Donc, on traite du tout.
Nous allons quitter la salle de réception. Nous sommes juste dans une pièce à côté, plusieurs personnes, des chaises, plein de documents. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On peut connaître votre nom et votre statut ici?
Oui, c'est Timothée Dupuisa, je suis membre de la Voix sans voix et je m'occupe du programme assistance judiciaire ainsi que le programme qui concerne les personnes qui sont refoulées de l'Europe.
Monsieur Floribert chez BEA, on travaille à quelle heure?
En tout cas, lorsque vous consultez notre registre de présence, et souvent il est ici parfois avant 7h30.
Et il quitte ici à quelle heure?
très tard compte tenu du volume des dossiers que nous recevons chaque jour.
Qu'est-ce qu'il aime de plus?
Le travail bien fait. Et qu'est-ce qu'il n'aime pas?
L'oisiveté.
Je vous remercie, Monsieur Timothée. C'est moi plutôt qui vous remercie.
Alors, nous quittons maintenant Monsieur Timothée. Nous entrons dans une autre salle, juste un tout petit couloir où nous retrouvons un monsieur qui est en train de lire des documents.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous avez quel statut ici?
Ah oui, je me nomme Peter Toumba. Je suis coordonnateur à la RSV.
Ok, monsieur le coordonnateur, qu'est-ce que vous reprochez à votre chef souvent?
Le reprocher, c'est trop dur. Monsieur Florian Chebeya travaille sans relâche d'une manière qui contrarie quelque peu avec une discussion de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui veut que quiconque travaille a droit au repos.
Je vous remercie.
C'est vous que je remercie pour avoir pensé à nous.
Merci Guy Roger Nyampala. Robert Chebeya, je vous ai vu hocher la tête à certains moments. Votre réaction?
La réaction, c'est la fidélité par rapport à nos réalités. Ça décrit également les exigences du travail, la qualité, la rigueur, les sérieux, et puis les réactions que ça peut produire auprès des collaborateurs et collaboratrices.
Et les collaborateurs, vous les avez choisis vous-même?
Pas vraiment. Il y a certains qui sont venus par mon canal, d'autres qui sont venus par la dynamique même développement de la voie des sans-voix pour les voix de l'homme.
Alors, Floribert Chebeya, vous êtes marié?
Oui, depuis 1992, père de 4 enfants.
Nous allons joindre quelqu'un pour vous, c'est votre femme. Madame Chebeya, bonjour.
Bonjour.
Vous nous entendez?
Bien sûr, oui.
Alors, soyons indiscrets. Comment votre mari vous a-t-il rencontré?
Oui, c'était de la prière. Hein. On priait ensemble. On s'aimait là-bas.
Et vous lui avez dit d'accord dès le premier abord?
Non, c'était un peu difficile. J'ai pris encore même un mois ou deux mois comme ça. Pour lui dire que je l'aime.
Vous l'avez suffisamment fait marcher?
Bien sûr, il connaît.
Ah, il connaît. Florian, c'est bien la réaction.
J'ai compris.
Vous avez souffert, hein?
Oui, ça c'est... Si on est garçon, on est homme, donc on doit passer par ce canal. Chacun doit porter sa croix.
Une petite anecdote, peut-être?
Par rapport à
vos fiancés, à votre amour.
Disons, quand j'ai découvert celle qui est devenue mon épouse, bon, j'étais en train de me poser déjà des questions, et puis je l'ai trouvé à un bon moment, comme il dit, dans un lieu, n'est-ce pas, de prière. Bon, son passé m'a intéressé, son physique, sa beauté, et puis je me suis dit, je ne recule pas, je m'engage, parce que j'ai voulu être un homme complet, parce que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais incomplet, et que il me fallait, n'est-ce pas, une dame, donc mon épouse, pour que je sois complet, je puisse m'acquitter de toutes les obligations pour réaliser également mon projet de société.
Madame, vous confirmez?
Bien sûr, je confirme.
Dites-nous rapidement aussi, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui?
Bon, seulement, il travaille beaucoup, il a peu de temps pour nous à la maison. En tout cas, il se donne corps et âme pour son travail. Je le dérange un peu pour lui dire qu'aujourd'hui, tu peux rester avec nous. Bon, il me dit que moi, j'ai des dossiers à régler, alors là, je laisse. Hein. Mais en tout cas, ça me dérange un peu. Mais il est bien.
Donc, en fait, il passe très peu de temps avec vous?
Oui.
Et vous souhaiteriez qu'il en passe un peu plus?
Même de congé annuel, hein?
Ça fait combien de temps que vous êtes mariée? Vous pouvez nous rappeler, là?
Oui, c'est le 4 avril 1992.
Alors, madame, pour clore cet entretien, pouvez-vous proposer quelque chose à votre mari comme chanson?
Oui, bon, d'abord, mon mari aime vraiment des chansons anciennes, hein, telles que Ok Jazz, Taboulay, mais moi, j'ai dédié la chanson Maya, chantée par Carlito, vraiment pour le faire plaisir et pour lui dire aussi que je l'aime, je l'aimerai toujours. Il est mon mari.
Alors, madame, restez avec nous pendant que nous suivons la chanson.
Ok, merci beaucoup.
Maya. Oh, Maya, mon amour. Yoka mon nom, Mozali, Kobele, la Yona, Kati, Yabuto. Yoka le collet, la soupe, Yamboka. Ozali, Moto, Kanisa. Nakomi lokola lisanga ya mbula pembeni ya ebale Maya, kasi ata butu eyindi makasi ntongo ekosukaka te sanga. Nazali responsable na yo, ye nde ozali coupable ya misere na ngai. Mamá, tú ni no me temas.
na komi kosanga mikolo na misapi na komi ndeko banga bala liboso tosalaki masata ezalaki kaka boye soki nakungolaki misose olingaki yo boyanga yanga ina silo boko na lisama makambo matondinga motema e nakomi kosanga basanza na misapi nakomi ndeko banga mala liboso okendeki silo ezalaki kaka boye soki nakutaki zikete nalanda yo olingaki ozunga te yanga misilo lelo nazoki makila masangani na nso ya monoko mosusu nabwaka mosusu na mbela nakominda badu te ala eleki osendaki dizo mpe kobandaki kaka boye soki nalanda silo lelo na yo ezalaki mpe tokabona yo okisasa kisasa mboka te moto ozali kokufa bango bazali koseka moto nakei kosenga conseil akomi nde koseka mpe kotongo konga na pembeni ebango ya kokamwa zuzi oyo amesana kosambisa matata yanga na yo mai nzoka nde alulaka oyo lisusu mokili komplike omama enamipikoli suki na moto osango na yoki na bondeko ndima nazangi confiance na matoli nanga moko nzoto ekomi somosomo e moto aliyanga na ngasani moko lelo yo komambana komi yokanga lokola liwa osali zoba lokola nloki omama enamipikoli suki na moto osango na yoki na bondeko ndima nazangi confiance na matoli nanga moko ekomi somosomo e moto aliyanga na ngasani moko lelo yo komambanga komi yokanga lokola liwa osali zoba lokola ndoki yeye mai nakomi lokola moto bafi na nyoka
Floribert Chebeya, je vous vois très pensif, vous pensez à quoi?
Non, je suis l'histoire relatée dans la chanson. Vous savez, l'artiste Lutumba, c'est vraiment une tête. Donc, je suis en train d'admirer encore sa poésie musicale.
Nous sommes désolés d'interrompre cette très belle chanson du poète Simaro Lutumba. Madame Chebeya, nous vous remercions pour cette chanson et bonne journée.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Le grand témoin.
Cette émission est une rediffusion.
Grand témoin s'entretient avec Floribert Chebeya, président de l'ONG des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix. Quel est l'état des lieux que vous pouvez dresser des droits de l'homme en RDC depuis le régime Mobutu jusqu'à ce jour?
En deux mots, l'état des lieux, c'est la consécration de l'impunité au Zaïre et en République démocratique du Congo. Il y a également des persécutions contre les défenseurs des droits humains et des atteintes massives au droit à la vie, directement par la gâchette facile et indirectement par la misère exagérée contre la population. Disons également le manque ou la mauvaise distribution de la justice congolaise. Donc il n'y a pas de droits humains sans justice. Donc voilà en deux mots les grands maux dont souffre la République démocratique et l'instrumentalisation du pouvoir politique et de tous les activités de pouvoir, y compris les services de sécurité, la police, l'armée, etc., etc., contre la population congolaise. Et ça pose en fait un véritable problème des conceptions du pouvoir, d'exercice au pouvoir en République démocratique du Congo.
Près de 20 morts et des personnes enlevées le week-end dernier à Kanyola. Nous sommes là précisément dans le territoire de Walungu, à 50 km à l'ouest de Bukavu. Ces personnes ont été tuées à l'arme blanche par des présumés rebelles hutu-rwandais dans deux villages. Parmi les victimes, il y a plusieurs femmes et des enfants. Voici le récit que nous faisait Astrid Mujinga avant que le bilan ne s'alourdisse.
L'attaque a eu lieu à 1h du matin dans le village de Namibouze et de Kihamba, selon Blek Balagizi, président de la société civile de Kanyola, qui se trouvait présentement sur les lieux. Les assaillants ont tué 17 personnes, blessé 19 autres au moyen d'armes blanches, selon les bilans provisoires, et emporté beaucoup d'autres dont le nombre n'est pas encore connu dans la forêt. Ils ont également pillé toutes les maisons qu'ils ont visitées. Le médecin directeur de l'hôpital général de Walungu, Jean Mukenga, que nous avons joint au téléphone, nous a confirmé la présence de 5 femmes blessées, dont 3 grièvement, victimes de cette attaque dans son hôpital. Il a pu nous passer une victime que nous avons interrogée. Selon sa version, après avoir commis leur forfait, les assaillants ont laissé une lettre dans laquelle ils ont dit qu'ils voulaient faire connaître à la population que ceux qu'on croyait être enterrés sont ressuscités et qu'ils vont revenir en force. L'ordre aurait été par l'administrateur du territoire de Walungu de ne pas enterrer les morts jusqu'au moment où toutes les autorités auront constaté ces tueries. Mais l'administrateur du territoire de Walungu est resté injoignable au téléphone.
Dans ce genre de situation, Floribert CBA, que peut faire la voix des sans-voix?
Bon, la situation est complexe. Il faut dire que les moyens traditionnels dont dispose une organisation de défense des droits de l'homme sont quand même limités par rapport aux moyens dont dispose l'État, qui est en fait le premier garant de réalisation des droits humains en République démocratique du Congo. Donc il faut en fait une conjugaison d'efforts où l'État qui existe. Alors on doit se poser la question s'il y a encore un État en République démocratique du Congo, ce qui est en fait un problème de base. Et le travail des ONG est en fait un travail complémentaire à celui fait par l'État congolais. Et s'agissant de la persistance de l'insécurité des tueries de massacre au nord et au Sud-Kivu, je pense que la responsabilité de l'État congolais apparaît au grand jour. Et je pense l'État congolais, parce qu'on ne peut pas concevoir un gouvernement pour rien, le gouvernement doit tout faire pour arriver à sécuriser les personnes et les biens. Et le gouvernement est là pour en fait accéder à la volonté de la population et à ses aspirations profondes par rapport aux droits de l'homme, par rapport à la justice, par rapport au bien-être. Mais malheureusement, ce que nous vivons au Congo, c'est le contraire.
Le grand témoin.
Grand témoin reçoit Floribert Chebea, président de l'ONG des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix. Beaucoup d'auditeurs de la radio Okapi s'intéressent aux droits de l'homme et vous posent quelques questions. Commençons par cet auditeur de Kananga.
La main sur le cœur que pour le financement des ONG des droits de l'homme ainsi que des activistes des droits de l'homme contribuent ou a contribué jusqu'à ce jour à l'amélioration des droits de l'homme dans ce pays depuis le certifié.
Réponse Floribert Chebea.
Oui, bien entendu.
La main sur le cœur.
Absolument. Parce que nous voyons d'où nous venons, comment nous avons commencé, nous l'avons dit, nous avons commencé dans le néant, armés seulement par la volonté de servir, de travailler à la réalisation des droits humains. Les concours financiers extérieurs sont arrivés progressivement. Malheureusement, en République démocratique, il n'y a pas encore de culture pour prendre en charge les questions des droits humains. Donc, les degrés de dépendance par rapport au financement extérieur est quand même très très élevé et fragilise quand même à terme les efforts des défenseurs des droits humains. Il est important peut-être de dire qu'il faudrait qu'on imagine des voies et moyens pour ne pas garantir ces efforts, le financement des ONG à l'avenir. Et là, c'est un appel que nous lançons au gouvernement de la République démocratique du Congo, qui en fait doit soutenir les efforts au niveau de la société civile, parce que de plus en plus dans le monde contemporain, la communauté par exemple des Nations Unies recourt à l'expertise de la société civile. Et même dans la bonne gouvernance aujourd'hui, je ne veux pas concevoir un État qui ne s'ouvre pas la collaboration franche et sincère, n'est-ce pas, de la société civile. C'est un appel que je lance à l'endroit du gouvernement de la République démocratique du Congo pour que s'instaure enfin un partenariat concluant entre la société civile, les ONG des droits et l'État congolais.
Prenons cette question de Mbandaka.
Je m'appelle Patrick, je suis à Mbandaka. La question que je veux poser à notre invité, c'est celle de savoir si la justice militaire peut satisfaire les attentes de la population. Je prends un exemple concret. Du 3 au 4 de l'année 2005, je pense, il y a eu pillage à Mbandaka. Il y a eu la justice militaire qui a organisé un procès pour juger les militaires qui étaient compromis dans cette histoire-là du pillage. Jusqu'ici, la population continue à attendre le vrai verdict. Parce qu'à un moment donné, on a jugé et puis on a condamné certains militaires. Curieux, c'est que ces militaires continuent encore à vaquer paisiblement, ils continuent à marcher normalement, alors que la population attend que les vrais auteurs de ce pillage soient effectivement jugés et puis condamnés.
Comment la voix des sans-voix peut-elle aider la justice à faire son travail correctement?
Les mots dont souffre la justice congolaise ont été dénoncés à plusieurs reprises. Je pense que l'État congolais, qui doit exister réellement, devrait prendre ses responsabilités à deux mains. Pour garantir la justice, une bonne justice en République démocratique, il faut arriver à résoudre tous les problèmes qui se posent. Il y a des problèmes de formation, peut-être c'est pas le problème principal. Il y a plutôt un problème de conditions de travail et de conditions de vie.
Quelle peut être la contribution de la voix des sans-voix dans tout ce que vous dites?
Non, la contribution de la voix des sans-voix, en fait, qui ne peut pas remplacer l'État congolais, c'est de rappeler à l'État congolais ses engagements nationaux et internationaux en matière des droits de l'homme et dénoncer, faire, n'est-ce pas, des propositions pour qu'il puisse réellement se réaliser. Nous aidons également dans certaines mesures à attirer l'attention de bailleurs extérieurs pour aider l'État congolais pour garantir la justice en République démocratique du Congo. Mais ça ne peut venir qu'à la pointe. On a tendance à inverser, n'est-ce pas, les choses où on attend plus l'appui de l'extérieur, on néglige, n'est-ce pas, les efforts que devraient déployer les autorités congolaises. Un exemple, en 1998, nous étions en train de commémorer au niveau mondial le cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'époque, j'ai dit au ministre des droits humains que c'était quand même un non-sens que, alors que l'État congolais s'était engagé à commémorer comme les autres États du monde, mais tous les financements sont vus des missions diplomatiques et les gouvernements congolais n'avaient presque pas contribué. Ce qui fragilise, en fait, les droits humains dans notre pays.
Encore une question de Kananga. Encore et toujours la justice.
Oui, je comprends qu'il n'y a pas de droit à l'homme sans justice. Malheureusement, c'est que l'auditrice vient dit, c'est ça, la réalité ou la réalité que nous vivons en République démocratique du Congo, où il y a une justice des plus forts contre les plus faibles. Je crois que c'est la même recommandation. Il y a des appuis à faire au niveau de l'État, au niveau de la formation, au niveau de la documentation et au niveau de l'humanisation des conditions de vie et de travail du personnel judiciaire et leurs assistants.
Cette émission est une rediffusion.
Lentement mais sûrement, nous tendons vers la fin de cette émission. Terminons la série de questions par Mbandaka.
Oui, moi c'est Delphine Dimbolen, étudiant à l'université de Mbandaka. Ma question concerne les droits humains. Lorsqu'on sait que pratiquement, par exemple, dans la ville de Mbandaka, il y a des cas de violation des femmes, il y a des cas de violation des droits de la presse qui continuent, la question est de savoir est-ce que le principe des droits humains existe ou alors cela existe sur texte et où en est-on avec son applicabilité?
Réaction Floribert Chebeya.
Oui, on ne va pas se poser de questions sur l'existence du principe. Le principe existe. Tout comme les droits humains, c'est proclamé un idéal commun à réaliser par la communauté de nations à travers le monde. Et déjà, à l'occasion du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1998, il y a eu des débats fort intéressants sur l'effectivité de la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments internationaux en matière des droits humains. Les textes existent, mais il faudrait au niveau des États une volonté réelle à pouvoir les appliquer déjà au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous vous rappelez, vers les années 2000-2001, Mme le Haut Commissaire Mary Robinson, qui a dû pratiquement démissionner, a dénoncé l'hypocrisie des États qui proclament les droits humains mais qui ne donnent pas des moyens financiers, matériels nécessaires pour la réalisation des droits humains. Donc c'était en fait une réaction de Mme le Haut Commissaire pour dénoncer et condamner l'hypocrisie des États.
Grand témoin, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous remercions Floribert Chebeya. Toute l'équipe de Grand Témoin vous remercie de votre attention. Okapi Weekend matin se poursuit sous le rythme de cette belle musique.
Aquel de Seboyeo Adala kina posa ya baninga Asikisa yeo Anana Seboyeo Adala kina posa ya baninga Basoro ya Mawele kie amikwa kio likolo ya ndako yekondike te. Awa elikaki ya pumbwe o bandiku batangi ye seboyo likolo bona kiiba tambo yobona sasuri aroga. C'est pas le bonheur, suivi de pas d'amour. Et le bonheur, juste un sourire, un regard. Anana, c'est beau, yo. Azala qui n'a pas sa yabanga. A solisa, yé. Akende, c'est beau, yo. Adela kina posa ya koseka sabalinga mawele kie ya mumbwe ikolo ya ndako yekondekete pasile kie ya kiyo mawana motema tokolo banini yo. Oh, my God.